Alors, Claude Olivier Doron, donc vous êtes historien et philosophe des sciences, je ne sais pas si vous l'avez dit pendant mon absence, maître de conférence à l'Université Paris Diderot et chercheur au laboratoire Sphère et au Centre Canguilhem. Alors, vous avez une formation en histoire et philosophie des sciences et une autre en anthropologie de la santé. Votre thèse portait sur l'histoire des concepts de race et de dégénérescence et mêlait histoire du racisme et des savoirs sur la race, histoire de la santé publique, de la psychiatrie et de la criminologie. Vos recherches concernent notamment l'histoire et l'actualité des savoirs sur les polymorphismes génétiques humains et les usages scientifiques actuels de la notion de race en biologie et en médecine, ainsi que les questions éthiques et sociopolitiques qu'ils posent. Parmi vos très nombreuses publications, on peut peut-être citer votre ouvrage de 2016, publié aux éditions Champvallon et intitulé « L'homme altéré, race et dégénérescence du XVIIe au XIXe siècle ». Dans cet ouvrage, vous mettez en avant un mode de raisonnement de type généalogique, donc étranger aux partisans du polygénisme qui concevait les différences biologiques entre les races comme étant originelles. Et vous proposez une autre histoire de la notion de race pensée à travers la notion de dégénérescence ou dégénération. Ainsi, la race aurait d'abord été pensée au XVIe, XVIIe comme altération, déviation à partir d'une identité d'origine chère aux partisans du monogénisme. Plus tard, au XVIIIe, XIXe, la race a progressivement été pensée comme une dégénération par rapport à un type idéal. Et d'objet de connaissance, la notion de race glisse alors vers un objet de pouvoir. On pourrait rajouter par ailleurs que vous cherchez aussi à mêler vos activités de recherche et d'enseignement à une certaine forme d'action. Ainsi, après votre thèse, vous avez effectué une mission exploratoire pour Médecins du Monde en vue de développer des alternatives à l'incarcération pour des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Et d'autre part, vous intervenez auprès des étudiants en médecine dans le cadre du dispositif de formation collaborative en humanité médicale de l'Université Sorbonne Paris-Cité, un dispositif qui est basé sur des méthodes pédagogiques participatives et qui vise à faire émerger les enjeux à la fois éthiques, épistémologiques, anthropologiques et sociaux des situations vécues dans les pratiques de soins. Enfin, vous faites partie du comité de pilotage du réseau thématique pluridisciplinaire SHS génétique et médecine génomique, une initiative toute récente de l'INSHS du CNRS qui vise notamment à accompagner sa politique scientifique. Et donc, son champ d'action devrait couvrir tous les enjeux épistémologiques, philosophiques, historiques, sociologiques, anthropologiques, économiques, éthiques et juridiques de l'analyse des génomes et de leur usage médicaux et non médicaux. Ce réseau est également inscrit dans le contexte d'une réflexion sur le rôle des sciences humaines et sociales dans le plan France Médecine Génomique 2025, visant à développer 12 plateformes de séquençage à très haut débit du génome humain afin de répondre à un enjeu de santé publique, celui de la médecine génomique ou médecine personnalisée, en tout cas tel qu'il est avancé par les pouvoirs publics. Et donc, je vous cède la parole. Votre intervention aujourd'hui s'intitule « Déconstruire le retour de la race en biomédecine, de la nécessité de faire vraiment l'histoire du concept de race en biologie et en médecine après 1945 ».
Initialement, moi, je travaille beaucoup sur l'histoire longue de la notion de race et d'abord et avant tout pendant longtemps sur la période 18e début 19e siècle. D'ailleurs, j'ai pas abandonné du tout cet aspect-là, mais j'ai aussi choisi de me déporter un peu plus sur une période très contemporaine, en liaison en partie d'ailleurs avec les recherches que j'avais faites, en liaison avec ce que vous aviez mentionné pour l'article dans La Vie des idées sur le retour de la race aujourd'hui en génomique et en médecine, parce que j'avais été frappé par le fait, et je vais y revenir, et comme Luc l'a aussi un peu anticipé, que la notion même de retour faisait problème. Donc c'est un peu là-dessus que je vais revenir. Alors, le thème donc du retour de la race en biologie et en médecine, qui s'est imposé, je ne vais pas y revenir, dans les années 2000, notamment outre-Atlantique, invite à mon avis à repenser à nouveau frais l'histoire récente du concept de race lui-même dans les sciences. Pour qu'on puisse parler de retour, encore faut-il qu'il y ait eu disparition ou à tout le moins occultation durable de la notion dans les sciences biomédicales au cours du second XXe siècle. Sans quoi il s'agirait moins d'un retour que d'une perduration, avec plutôt la caractéristique des années 2000 qui serait que, pour des raisons sur lesquelles il faudrait revenir, et que Lucas en partie évoquait d'ailleurs, tout un ensemble de techniques et de concepts qui étaient juste ici confinés au champ de la génétique ont accédé à un nouvel espace de visibilité et d'usage, à tout un ensemble de nouveaux champs d'application et à une appropriation publique bien plus large. Autrement dit, pour bien comprendre le sens du retour de la race dans les années 2000, il me semble qu'il faut commencer par s'assurer que son occultation antérieure ne tient pas beaucoup de l'artefact historiographique. Et c'est un peu la position que je vais essayer de défendre ici, en continuité avec toute une histoire récente, historiographie récente, qui s'est enfin décidée, parce qu'en fait, artefact historiographique, parce qu'en réalité, on avait peu travaillé sur toute la période entre 1945 et les années 90, hein, c'est tout simplement ça. Donc une historiographie récente qui s'est intéressée et qui commence à s'intéresser au destin complexe du concept de race et des différents savoirs sur les variations biologiques humaines après 1945. C'est une historiographie qui est encore un peu mal connue en France, où le mythe historiographique d'une disparition brutale de la race en science après 1945, ou celui d'une rupture de paradigme, d'une coupure épistémologique bien nette et qui miraculeusement épouserait la temporalité politique, perdure encore largement. Et mon objectif, c'est d'un peu d'interroger tout ça. Alors commençons par le mythe qui a été un peu évoqué par Luc tout à l'heure, hein. Après 1945, les atrocités commises par le régime nazi au nom de la race, parallèlement à la campagne antiraciste lancée par les organisations internationales comme l'UNESCO, les sciences biomédicales auraient abandonné le concept de race, défendu par l'anthropologie physique d'avant-guerre, pour celui de population. Là où l'anthropologie physique d'avant-guerre croyait, semble-t-il unanimement, et déjà ça, ça mériterait d'être carrément critiqué, à l'existence de races humaines caractérisées comme des ensembles stables, statiques, homogènes, discrets, séparés, hein, bien clairement séparés, fondés sur des types morphologiques nettement distincts, les sciences biomédicales d'après-guerre, la génétique des populations au premier chef, auraient substitué une vision de l'humanité répartie en populations qui partent de la variation individuelle, identifient des fréquences différenciées de caractère selon les groupes, populations aux frontières labiles et animées de dynamique. Rupture épistémologique nette donc qui substituerait à la race la population. Ou dans une version un peu plus proche déjà de la réalité, qui substituerait plutôt une conception dite typologique et morphologique de la race, à une conception typologique et morphologique de la race, une conception dite populationnelle et génétique de la race. Cette conception, on la retrouve parfaitement illustrée dans la définition proposée par William Boyd en 1950, je cite, on peut définir une race humaine comme une population qui diffère de manière significative des autres populations humaines par la fréquence d'un ou plusieurs des gènes qu'elle possède. Fin de citation. On est en 1950, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup bougé, hein, sur tout un ensemble d'éléments. Alors vous avez remarqué combien cette dernière définition interroge déjà tout un ensemble de discours qui, à la manière par exemple de quelqu'un comme Jacques Ruffier en France, vont affirmer ensuite par raccourci, je cite, que chez l'homme les races n'existent pas, il n'y a que des populations. Problème, parce qu'on vient de le voir, la notion de race est alors définie par Ruffier lui-même d'ailleurs comme une population. Donc qu'est-ce que ça signifie que dire les races n'existent pas, il n'y a que des populations, alors que la race elle-même est définie comme une population, ça pose un certain nombre de questions. En tout cas, on a ici deux versions, une version disons maximaliste ou grand public, celle qui croit qu'en 1945, miraculeusement, les scientifiques ont abandonné le concept de race, tout go, et celle un peu plus nuancée, mais on va le voir d'ailleurs aussi problématique, qui croit que l'on passe dans les années 1945-50 d'une conception typologique, statique, morphologique, à une conception populationnelle, dynamique, génétique de la race, au moment où la génétique des populations et la théorie synthétique de l'évolution s'imposent sur l'agenda biologique, les phénomènes étant d'ailleurs relativement liés. Alors ces deux versions, en fait, elles ne tiennent pas vraiment la route, et je vais commencer par quelques éléments pour évacuer assez rapidement la première. Alors, tout d'abord, ça c'est un fait que Luc a déjà évoqué, Les généticiens des populations, comme Dunn, comme Fisher, comme Dobzhansky, c'est pas n'importe qui là dont je suis en train de parler, main dans la main avec les anthropologues physiques comme Valois ou comme Carlton Kuhn, pour le cas américain, ont été parmi les premiers à affirmer leur réticence vis-à-vis de la première déclaration de l'UNESCO sur les races de 1950, laquelle, il faut le souligner d'ailleurs tout de suite, ne contestait pas la pertinence scientifique du concept de race, mais au contraire appelait à bien distinguer une définition scientifique de la race de ses interprétations et de ses usages idéologiques, selon une stratégie classique de l'UNESCO à l'époque, qui voyait dans la science et la diffusion des connaissances un moyen de lutter contre les préjugés et les idéologies. Leur réticence a conduit à la rédaction d'une seconde déclaration en 1952. Je le dis tout de suite, la stratégie de tout un ensemble de ces personnes-là va dire ben « nous, on va vous fournir la définition scientifique de la race ». Ça, c'est le deuxième point. Ils avaient en fait de très bonnes raisons d'être réticents. De fait, au même moment, loin de réfuter le concept de race, leur argument, à la plupart des biologistes et notamment les généticiens des populations, consistait à soutenir qu'à travers la génétique et l'analyse statistique des groupes sanguins ou des polymorphismes du métabolisme, on disposait enfin d'une définition scientifique de la race et des outils techniques pour identifier les groupes raciaux. En 1951, par exemple, à l'occasion d'un colloque qui réunit la plupart des généticiens et des anthropologues anglais sur l'étude des groupes sanguins, Morant, Darlington et bien d'autres, des gens très importants, l'un des fondateurs de la génétique des populations, Ronald Fisher, c'est-à-dire vraiment l'un des fondateurs de la génétique des populations, hein, se félicitait du fait, je cite, « que l'on sait maintenant que les différences entre les races sont génétiquement déterminées et peuvent en conséquence être étudiées à profit par les généticiens. La race constitue assurément un fait important et le mot n'a plus désormais un sens aussi nébuleux que les scientifiques puissent hésiter à l'employer. » Fin de citation. Donc on est vraiment loin de l'abandon de la notion de race. Hein. Dans ce cas-là, il est loin d'être isolé. Au même moment est publié le grand classique du généticien et médecin américain William Boyd, « Génétique et race humaine », qui est exactement sur le même principe. Dobzhansky multiplie les mêmes affirmations à l'époque. Et c'est la même chose en France. Je reviendrai sur le cas de Jacques Ruffien un peu plus tard, mais je vais vous prendre un autre exemple qui est intéressant. Dans un débat télévisé sur le racisme en 1959, l'anthropologue Raoul Hartweg disait les choses suivantes, hein, il s'opposait à une vision qui ramènerait la lutte contre le racisme à l'affirmation selon laquelle la race n'existe pas, et il soulignait, je le cite, « la race, en tant que phénomène biologique, est un fait absolument incontestable ». Fin de citation, on est en 1959, d'accord ? Donc, il faut insister sur ce point. La quête des marqueurs raciaux, la quête de fréquences caractéristiques de certaines races, en particulier à travers la collecte, l'analyse statistique donnée sur les groupes sanguins, fonde à l'époque une multidiscipline de programmes de recherche, tant à l'échelle nationale qu'internationale, et ce, y compris jusque dans les années 60, à la fin des années 60. Alors, je vais vous donner juste quelques autres petits éléments pour montrer cette perduration de la notion de race. Hein. Un tout simple, hein. Le que sais-je d'Henri Valois sur les races humaines est publié sans discontinuité ni sans modification de 1944 à 1976. Alors, la rupture, il faut la chercher dans un cas comme ça. Hein. Le grand manuel de génétique des populations humaines, publié par Cavalli-Sforza et Bodmer, The Genetics of Human Populations, paru initialement en 1971, contient encore dans sa réédition de 1999 un chapitre sur la différenciation raciale chez l'homme et un appel, je cite, à une définition génétique de la race dans la pure tradition Boyd-Dobzhansky. Donc, premier point, je pense, très clair. Il n'y a pas de disparition comme par miracle de la notion de race du champ biomédical après 1945. Il y a au contraire tout un travail de définition, de redéfinition, de débat, de discussion. Autant d'ailleurs, je le dis, que le fait que la race devient un support d'un ensemble de collaborations, de circulation, de programmes nombreux à l'échelle internationale, qu'elle s'intègre par ailleurs dans tout un ensemble d'évolutions techniques de la période, à la fois intégration de techniques statistiques de plus en plus raffinées en génétique des populations humaines, à la fois l'évolution des techniques d'analyse qui passent des marqueurs sanguins et de divers facteurs héréditaires jusqu'à l'analyse de l'ADN, dont quelqu'un comme Jacques Ruffier, en 1966, notait, je cite, qu'elle constitue la méthode idéale d'analyse raciale. L'ADN, c'est la méthode idéale d'analyse raciale. Bon. Donc croire au mythe de la disparition de la race après 1945, c'est s'empêcher tout simplement d'analyser comment, entre les années 1940 et le développement des programmes sur le génome humain dans les années 1980-90, la notion de race a fait l'objet de débats, d'investissements conceptuels, techniques, disciplinaires, multiples, qui retentissent en fait de fait jusque dans notre actualité. Et là maintenant je vais insister sur le deuxième point, c'est celui sur lequel en fait je vais vraiment insister. Il serait insatisfaisant de lire cette histoire, à partir de 1945 on va dire, à partir du modèle de la rupture de paradigme ou de la coupure épistémologique. Je le dis tout de suite, je suis un fan de la coupure épistémologique dans tout un ensemble de cas, mais là, ça me semble insatisfaisant. Insatisfaisant de faire jouer un système d'opposition binaire qui opposerait la conception morphologique et typologique, statique, discrète, caractéristique de l'anthropologie physique, et la conception génétique, populationnelle, dynamique, caractéristique de la génétique des populations. J'ai cité tous les mots-clés que vous trouvez comme tarte à la crème dans la plupart des discours. Hein. Le système d'opposition en question, de même que l'analyse en termes de rupture, masque une réalité de positionnement beaucoup plus complexe et ambigu, un jeu de chevauchement, d'intrication, de déplacement à la marge, de jeu d'accent possible, selon les moments, les stratégies de démarcation professionnelle, et les forums sur lesquels on se situe. On ne tient pas les mêmes discours dans tel ou tel texte scientifique et lorsqu'on s'adresse à un public au Collège de France, dans le cas par exemple de Jacques Ruffier, j'y reviendrai ensuite. Et il est extrêmement important de comprendre ces ambiguïtés et ces jeux à la marche parce que ce sont eux qui vont permettre à la notion de race de perdurer et d'être réinvestie dans tout un ensemble de pratiques jusqu'à aujourd'hui. Je le dis par ailleurs, le problème des jeux d'opposition comme typologique et populationnel, et ça, ça a été bien montré par des gens comme Lisa Gannett ou Jenny Reardon, pose un autre problème, c'est qu'ils épuisent et ils épousent extrêmement étroitement le récit que les acteurs eux-mêmes, et notamment les généticiens des populations humaines, ont adopté dans une stratégie de démarcation professionnelle. Et ça, ça fait un problème quand on fait de l'histoire et de la philosophie que d'adopter les catégories des acteurs eux-mêmes pour décrire cette histoire. Ça peut poser des difficultés. Alors je vais revenir sur plusieurs des éléments qui sont masqués par cette analyse en termes de rupture et d'opposition binaire. Le premier, c'est que en fait, il existe tout un ensemble de niveaux de continuité tant au point de vue des problèmes qui orientent les recherches que des techniques développées, entre la science des races des années 1920-1930, pour ne pas remonter beaucoup plus haut dans un certain nombre de cas, et la séroanthropologie ou la génétique des populations des années 1950-1970. Je vous en liste quelques-uns. Premièrement, démêler les mélanges raciaux et, je vais faire des citations, ça c'est une citation de Ruffier, identifier le fond génique, la structure raciale des populations, et les éléments qui la composent. Décomposer une population sérologiquement et génétiquement hétérogène en races sérologiquement et génétiquement homogènes, en utilisant pour ce faire tout un ensemble de tests statistiques. Pendant longtemps, on utilise le test Ki-2, tout simplement, pour différencier de manière nette des éléments hétérogènes à l'intérieur d'une population donnée. Deuxième élément important, rechercher des isolats, et identifier les exemplaires les plus purs de telle ou telle race, les plus purs, c'est-à-dire avant les mélanges, au travers de tout un ensemble de travail de sélection des éléments à étudier. Sélection, je fais toujours des citations, hein, vraiment autochtones, les purs basques, les vrais mayas, tout ce que vous voulez comme ça. En utilisant pour ce faire les outils tirés de l'anthropologie physique ou des questionnaires généalogiques qui permettent de faire le tri entre les éléments halogènes et les autochtones. Enfin, troisième élément, identifier des hémotypes caractéristiques ou des marqueurs propres à telle ou telle race, c'est-à-dire des marqueurs qu'on ne va retrouver ou à une fréquence extrêmement élevée que dans certaines races. Par exemple, Ruffier et Bernard, en 1972, rappellent, je cite, que « tous les Noirs de race pure semblent posséder toujours GMA et GMB, mais jamais GMX, sont des marqueurs sanguins ». Je le signale, en 1972, c'est le même moment où le même Ruffier, au Collège de France, dit « il n'existe pas de race, il n'y a que des populations ». Mais visiblement, dans d'autres contextes, il peut dire « il y a des races, des Noirs de race pure ». Bon, ça pose tout un ensemble de difficultés. Ou bien des systèmes de fréquences géniques qui sont présentés comme caractéristiques de certains groupes raciaux. Par exemple, on apprend en 1968 que les bédouins de Jordanie, je cite, présentent des caractères de pureté émotypologique qui les rapprochent beaucoup des Arabes purs, car ils ont gardé une certaine pureté de caractère raciaux de ces premiers Arabes. Et ça en fait, je cite toujours, hein, les plus représentatifs de la sous-race sémitique. Fin de citation. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'il nuance beaucoup de choses. Hein. En fait, la redéfinition génétique de la race et l'usage de marqueurs sanguins, en particulier pour identifier ces races, est très ancienne. Elle date des années 1919-1920. L'idée, par ailleurs, qu'il faut faire une analyse statistique de la distribution des caractères raciaux et qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus de race pure, c'est en fait un lieu commun qu'on retrouve depuis la fin du XIXe siècle, qui n'est pas original, hein, il faut y insister, à cette période-là. Inversement, la quête de certains isolats comme témoignage de pureté ou de paradis perdu va perdurer bien au-delà des années 1940. En outre, et ça c'est un point sur lequel je veux insister, il est important de rappeler qu'une conception populationnelle et fréquentielle de la race n'exclut pas, loin de là, la volonté de trouver des types raciaux stables et indice d'une certaine pureté. L'opposition entre populationnel et typologique est en fait trompeuse. C'est d'ailleurs tout l'effort, dans les années 1950-1960, de l'hémotypologie, justement, de trouver des hémotypes, des formules sanguines caractéristiques de telle ou telle race, voire, je l'ai dit, des marqueurs propres à telle ou telle race. Dans un contexte, et là je vais rentrer dans un élément plus technique de génétique des populations, dans un contexte où en fait on est dans une vision encore très statique des populations. L'un des principes fondamentaux de la génétique des populations, c'est ce qu'on appelle l'équilibre Hardy-Weinberg. L'idée selon laquelle la distribution et les proportions des différents allèles dans une population donnée restent théoriquement stables au cours des générations en l'absence de l'action de la sélection, des mutations, de la dérive génétique et des migrations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du point de vue de la plupart des chercheurs des années 1950-1960, ce qui fait précisément l'intérêt des marqueurs sanguins ou des polymorphismes enzymatiques comme marqueurs raciaux, c'est précisément qu'ils sont plus stables que les traits morphologiques, moins soumis à l'environnement, à la sélection et strictement héréditaires. Autrement dit, la variable sélection n'est pas pertinente. C'est comme ça qu'ils le présentent. La variable mutation est relativement négligeable à l'échelle de l'histoire humaine pour faire varier les proportions. La dérive génétique, eh bien, elle ne prend de poids qu'à partir des années 1960. Et donc, qu'est-ce qui reste ? La migration, c'est-à-dire le mélange des races qui apparaît comme essentiel. Et c'est extrêmement clair dans tout un ensemble de textes de l'époque. Hein. Et c'est le moment où on va voir se développer, en fait, depuis les années 1930 d'ailleurs, des techniques d'analyse statistique qui vont chercher à mesurer la contribution de telle ou telle race dans une population hybride, bi- ou triraciale, ce qu'on appellera ensuite des études d'admixture. D'ailleurs, on peut faire une ligne hein, comme ça, très claire, qu'on peut continuer là-dessus. Alors en tout cas, c'est le point sur lequel je veux insister, on peut identifier, et il faut identifier, des niveaux de continuité et de discontinuité qui ne sont pas tous du même ordre et qui n'obéissent pas tous aux mêmes temporalités. Je vais en distinguer plusieurs de ce point de vue-là. D'abord, une continuité et une discontinuité au niveau des techniques, qui a sa propre histoire, laquelle s'abstrait d'ailleurs assez vite des problèmes auxquels ces techniques sont censées répondre au départ. Et par exemple, je l'ai dit, on peut retracer une ligne assez continue entre les années 1930 et aujourd'hui sur l'histoire des techniques d'admixture et de l'usage statistique de tout un ensemble de techniques pour décomposer une population en population ancestrale qui y contribue plus ou moins. D'autre part, continuité et discontinuité au niveau des orientations problématiques ou des postulats qui déterminent les pratiques. Et en particulier, les pratiques de collection et de traitement des données sur le terrain, qui n'obéissent pas nécessairement aux mêmes temporalités que celles des concepts et des théories. Par exemple, la notion de race pure a beau être récusée dans les discours depuis très longtemps, la quête de la pureté raciale oriente en fait très largement les pratiques jusque dans les années 1970, pour ne pas dire plus tard. Ajoutons ici un autre point qui est, à mon avis, décisif. Ces pratiques et ces usages de la race, eh bien, ils varient, c'est ce que Luc a bien montré aussi, en fonction des champs disciplinaires. Si bien qu'une récusation de la pertinence de la notion de race dans un champ ne signifie pas nécessairement sa disqualification pour d'autres usages. On verra que c'est justement l'un des éléments qui explique certaines des ambiguïtés par rapport à l'incontestable discrédit qui frappe la notion de race dans les années 1980-1990 dans le champ de la taxinomie et de la génétique des populations humaines. En fait, ce discrédit, il n'exclut pas la possibilité de la pertinence de la notion pour d'autres usages, par exemple en médecine, ou pour identifier des généalogies. Il n'y a jamais, c'est le point central, de rupture homogène et générale, mais toujours régionale et spécifiée. Je peux peut-être le dire tout de suite, parce que c'est quelque chose sur lequel je voulais insister, je ne suis pas sûr d'arriver à la fin de ma présentation. C'est extrêmement frappant lorsque vous lisez justement les travaux de Lewontin ou de Jacquard, en fait. C'est-à-dire que, quelle est la logique de Lewontin ou de Jacquard ? C'est de contester la pertinence de la notion de race pour, et des catégories raciales pour évaluer la diversité, pour recouvrir et décrire la diversité humaine, avec cet argument effectivement selon lequel en fait ces catégories ne décrivent que 6 à 8% de la diversité humaine. Bon. Mais ça ne les empêche pas. Qu'est-ce qu'ils font en fait dans cet argument-là ? Et l'argument, c'est de dire les catégories raciales sont donc arbitraires d'un point de vue taxinomique, en envisageant la biologie d'abord et avant tout dans son activité de taxinomie. On le voit d'ailleurs très bien dans tout un ensemble de citations qui ont été faites aussi par Luc. Ça n'empêche pas, ça n'exclut pas la possibilité de mobiliser cette diversité pour tout un ensemble d'autres usages. D'accord ? Et c'est d'ailleurs l'un des arguments que va mobiliser Edwards ensuite. On peut prendre cette diversité-là et la maximiser pour un certain nombre d'usages, et notamment pour les usages généalogiques ou médicaux. Et c'est d'autant plus vrai que, alors ça c'est un point qui est souvent perdu de vue, que la position de Jacquard, par exemple, permet d'autant plus ça qu'elle s'inscrit en fait dans une histoire évolutive. C'est-à-dire que, et ça c'est un phénomène qu'on va retrouver assez souvent, les conceptions qu'ils ont des différences raciales, font qu'ils admettent qu'à un certain moment donné, dans l'histoire de l'évolution humaine, les catégories raciales pouvaient être pertinentes, parce qu'on avait un processus d'isolement. Je vais vous faire une citation de Jacquard qui est très claire de ce point de vue-là. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, alors que l'humanité ne comportait que quelques millions d'individus répartis sur d'immenses espaces, des différences génétiques significatives ont pu s'établir entre les divers groupes, et ceci aurait pu être, à juste titre, réparti en plusieurs races. Fin de citation. Or, il faut bien comprendre que, dans la mesure où la génétique des populations, c'est aussi l'analyse de l'histoire profonde de l'humanité, elle peut utiliser ces marqueurs hérités pour tout un ensemble de production de connaissances. Et ça, c'est une chose qui, moi, me semble assez importante à avoir en tête. Il y a une forme d'antinomie constitutive de la génétique des populations humaines de ce point de vue-là. À fin de connaissances, et en particulier au niveau généalogique et médical, elle peut tendre à chercher un certain nombre de marqueurs, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les Ancestry Informative Markers, par exemple, qui valent trace de différenciation entre des populations ancestrales. D'où l'intérêt, par exemple, qui a été promu par le Human Genome Diversity Project, qui consistait à collecter, avant qu'il ne soit trop tard, des marqueurs sur des populations isolées. D'où la tendance aussi, dans tout un ensemble d'études, et d'études très récentes encore, à exclure a priori les personnes réputées allogènes, car issues des vagues récentes migratoires. Par exemple, il y a une étude très connue de November, qui est sortie en 2009, qui exclut de la description du paysage génétique de l'Europe, les deux dernières vagues de migration. Pourquoi le fait-il ? Il le fait parce qu'il a un postulat d'une identité génétique européenne avant ces deux vagues de migration. Bon. Et aussi, cet effort de décomposer une population donnée en population ancestrale pour faire apparaître un certain nombre de choses, par exemple, pour corriger tout un ensemble de biais dans les études de médecine génomique. Bon. Donc il y a une tension entre ça, et une tension avec la position inverse, au nom d'arguments scientifiques et parfois aussi d'engagements éthiques et politiques, à insister sur la diversité interindividuelle et le fait qu'il y a une répartition clinale, c'est-à-dire continue des variations. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus une tension et que selon les moments, on peut utiliser cet argument ou l'autre argument. Je me suis égaré par rapport à ce que je voulais dire, mais j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un positionnement assez ambigu, en fait, de ce point de vue-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce positionnement assez ambigu ? C'est parce que les oppositions binaires sur lesquelles on raisonne généralement, ne fonctionnent pas vraiment très bien. Elles sont en fait beaucoup plus complexes qu'une simple opposition entre une conception typologique et une conception populationnelle, par exemple, ou alors entre une position qui va insister sur la dimension dynamique intérieure d'une population et la dimension statique de ces populations. Combien de temps il me reste pour...
Combien de temps vous pensez ?
Pas beaucoup. Donc du résultat.
Donc la pause a sauté de toute façon. Oui. À quelle heure du soir ?
Là encore jusqu'à midi 30 pour discuter.
Ah, on a encore.
Jusqu'à... laisse encore
10-15 minutes. Oui. Très bien. Bon, alors je vais aller vite là-dessus, mais je veux effectivement insister sur quelques points malgré tout. Un premier point qui consiste à noter que si on fait une analyse de la notion de race en génétique et en médecine, on peut constater une première chose, c'est qu'en réalité, à aucun niveau, les années 1945 ne font rupture. On peut largement se passer de cette rupture, parce qu'en fait, l'histoire commence bien avant, je l'ai dit, dans les années 1920, et ce qui se joue après-guerre est beaucoup plus un renforcement d'un certain nombre de programmes qui étaient déjà préexistants avant-guerre. Renforcement de tout un ensemble de programmes liés d'ailleurs au développement des systèmes, des systèmes de transfusion sanguine qui vont permettre une collecte intensive de tout un ensemble de marqueurs sanguins. Si on devait situer un moment d'inflexion, il est beaucoup plus, me semble-t-il, à situer dans les années 70. C'est là, voilà, années 70, mais, et c'est pour ça que je veux insister après là-dessus, moment d'inflexion ne veut pas dire moment de rupture. Et en plus, les ruptures ne sont pas toujours au même niveau. Alors, pour marquer juste une perduration, je vais vous faire quand même une citation qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment très frappante et elle permet aussi d'ailleurs de nuancer le retour du biologique dans les sciences sociales. En 1969, dans les Annales, revue d'histoire s'il en est, n'est-ce pas, l'historienne Madeleine Bordeaux reprend l'analyse de l'hémotypologie pour l'appliquer à une analyse de l'évolution du droit et des coutumes dans le Sud-Ouest. On est en 1969, ça montre qu'on utilise beaucoup à ce moment, et d'ailleurs c'est vrai, hein, quand on analyse, il y a beaucoup de textes qui utilisent en fait énormément les savoirs biologiques et médicaux à l'époque en sciences humaines et sociales. Et voilà comment elle résume les résultats de l'hémotypologie. On est en 1969. Hein. Chaque race humaine est caractérisée sérologiquement par un ensemble de systèmes héréditaires formant un type décelable au sein d'une population même mélangée. Donc dans une population même mélangée, vous pouvez identifier des races humaines différentes. Nous nous trouvons donc en présence de certitudes scientifiques. Les caractéristiques sérologiques d'une race se transmettent selon des mécanismes héréditaires. Elles sont permanentes dans le temps. Fin de citation. 1969. Hein. Alors, elle résume bien en fait un projet qui est effectivement le projet de l'hémotypologie des années 1950-1960, mais elle le résume au moment où il est en train de se fracturer, de s'effondrer un petit peu. Alors, pour donc faire vite, sur cette question autour de reprise de la perduration de cette notion de race sur toute la période que je décris, donc les années 45 jusqu'à 70, je l'ai dit, il faut se méfier des jeux d'opposition binaire. Je vais juste les évoquer brièvement sur quelques points où ils sont insatisfaisants. Le cas de l'opposition entre populationnelle et typologique est exemplaire parce que, comme je l'ai dit, en réalité, on peut souvent... Alors déjà, la notion de typologie qui est en réalité extrêmement vague, c'est souvent un anathème qu'on brandit dans des débats et qui peut parfois se retourner contre les acteurs mêmes qui ont élaboré la notion typologique. Le cas le plus amusant de ce point de vue-là, c'est que l'un de ceux qui a élaboré la notion de raisonnement typologique pour s'y opposer, c'est Dobzhansky. Et Dobzhansky se fait attaquer par Livingstone dans un débat très connu et important sur l'inexistence des races humaines, et il se fait accuser d'être typologiste. En fait, il y a toujours ce phénomène de mobiliser la notion de typologique avec un sens très vague sur ce qu'on entend par là, dans un système d'amathèmes et de combats. Plus profondément, je l'ai dit, une perspective populationnelle et fréquentielle n'exclut pas nécessairement la volonté d'identifier des types. En fait, le plus souvent, ce à quoi on a affaire, c'est à un jeu d'accent qui va permettre aux acteurs une assez grande plasticité selon qu'ils veulent mettre en avant la répartition Kleinaille des populations, c'est-à-dire insister sur la continuité et le flou des variations et le flou des frontières entre populations, ou selon, au contraire, qu'il prétend décomposer une population pour analyser sa structure en groupes raciaux distincts. Et la plupart des auteurs jouent alternativement sur ces deux niveaux. D'accord ? Et ça, c'est vrai d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, à mon avis. Par contre, on peut repérer incontestablement une inflexion forte dans les années 1970, qui vont conduire à mettre l'accent sur la diversité intrapopulationnelle et à faire de la variation individuelle ou locale l'échelle privilégiée. Cette inflexion, je l'ai dit, on la retrouve dans les travaux de Lewontin, on retrouve dans les travaux d'Albert Jacquard, on les retrouve aussi dans les travaux de Jean Yernaud, qui publie un livre sur la diversité humaine en Afrique subsaharienne, qui est un bon exemple de ça. Et je l'ai dit aussi, mais je veux y insister, elle n'est pas dénuée d'ambiguïté, dans la mesure où, si elle aboutit à disqualifier la pertinence des catégories raciales pour saisir, d'un point de vue classificatoire, la diversité biologique humaine, elle n'est pas exclusive de la possibilité de mobiliser tout un ensemble, dans tout un ensemble d'autres usages, les variants en question, parce qu'ils sont efficaces, soit ou jugés efficaces, soit d'un point de vue généalogique, soit d'un point de vue médical. Donc il faut vraiment bien distinguer les différents usages de ce point de vue-là, ça crée des ambiguïtés extrêmement fortes. La même remarque critique peut être adressée à l'opposition entre statique et dynamique. Là encore, il est clair qu'il y a dans les années 1960-1970 un point d'inflexion et une perspective qui insiste beaucoup plus sur la dimension dynamique de la race, qui analyse les processus évolutifs, démographiques, historiques dans la constitution des groupes raciaux et qui finit par définir les groupes raciaux comme des points d'équilibre précaires. C'est la définition qui va être mobilisée par tout un ensemble d'auteurs, et finalement aboutir à la remettre radicalement en cause à la fin, à remettre en cause la pertinence des catégories raciales dans ce cadre-là. Ça va de pair, cette évolution, avec une valorisation beaucoup plus forte de variables comme celle de la dérive génétique ou de la sélection. Et par exemple, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que tout un ensemble de marqueurs sanguins qu'on croyait être des marqueurs intéressants parce qu'ils n'étaient pas soumis aux forces sélectives, s'avère être en fait soumis à des processus de sélection. C'est quelque chose qui va aboutir notamment à la remise en cause de l'idée selon laquelle les isolats sont des témoignages d'une ancienne pureté. On va de plus en plus les analyser comme le résultat de dynamiques évolutives. Donc là, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'évolutions. Mais il faut y insister malgré tout. L'analyse dynamique de la race permet en fait, selon les moments et selon les forums, de mettre l'accent sur l'existence de processus de racisation dans le passé qui expliquent la présence de marqueurs raciaux et la possibilité de les utiliser dans tout un ensemble de cas comme des restes en fait d'un processus qui a eu lieu dans le passé. C'est ce qui permet par exemple à Jacques Ruffier de dire en 1972, je le cite, « On ne peut pas nier que des races bien autonomes existent encore ». Et d'un autre côté, en 1972 toujours, de dire dans sa leçon inaugurale au Collège de France, chez l'homme, les races n'existent pas, il n'y a que des populations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas en train de le dire sous la forme d'une contradiction. Sa conception dynamique de la race lui permet de dire les deux choses en même temps, sans véritable contradiction. Parce qu'en fait, ce qu'il entend par là, c'est que les races n'existent plus, et qu'en fait, elles n'ont jamais pleinement existé, sauf à titre de processus, lequel tend, au contraire, aujourd'hui, à disparaître au nom d'une homogénéisation biologique progressive avec la disparition des barrières, notamment bio-géographiques. Donc, autrement dit, ou bien on peut mettre l'accent sur le résultat du passé, ou bien on peut mettre l'accent sur la tendance à venir et la tendance du présent à l'effacement des frontières. Et selon les forums, selon les moments, ils jouent entre une position et une autre position. Dernière remise en cause d'opposition commode, celle entre la position de l'anthropologie physique classique qui insisterait sur les types morphologiques et la conception génétique de la race. Il est vrai que pour tout un ensemble de raisons de stratégie personnelle et disciplinaire, beaucoup d'anthropologues génétiques ou de généticiens des populations ont fait jouer eux-mêmes volontairement cette opposition pour se démarquer. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que s'il y a bien des rapports de conflit dans tout un ensemble de cas, il y a aussi entre l'anthropologie génétique et l'anthropologie physique classique des rapports de coopération, de reprise et de traduction entre leurs catégories. Le cas le plus exemplaire à prendre serait celui de Henri Valois, qui est la figure par excellence de l'anthropologie physique en France après-guerre, et qui est quelqu'un qui a joué un rôle en fait très important aussi dans le développement de l'anthropologie génétique et de la séroanthropologie. Il a initié tout un ensemble de collaborations. Il a surtout permis de mettre en place un argumentaire qui va permettre de fonder la supériorité de l'anthropologie génétique sur l'anthropologie morphologique en affirmant, je le cite, l'existence d'une hiérarchie des caractères raciaux qui permettent de faire coïncider dans un certain nombre de cas et dans d'autres cas expliquer les divergences entre le constat de l'anthropologie physique classique sur les types et les phénotypes, hein, et les positions de la génétique. Voilà ce qu'il dit, hein, je le cite, ça va être sans cesse repris ensuite. Il existe certains caractères, comme ceux d'ordre sérologique, strictement indépendants de l'action du milieu, qui marquent des parentés anciennes, la répartition primitive des groupes. Et d'autres, comme ceux de la forme de la tête et de la couleur, certainement plus labiles, marquant des différences secondaires qui ont modelé les races telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Donc vous avez deux niveaux différents. Et ces niveaux parfois coïncident, parfois ces niveaux ne coïncident pas, et quand ils ne coïncident pas, toute la stratégie des généticiens des populations va être d'insister sur cet aspect du fait qu'ils ne coïncident pas. Mais dans tout dans l'ensemble d'autres cas, au contraire, ils vont souligner le fait qu'elles se recouvrent et qu'il y a confirmation des données de l'anthropologie physique par la génétique des populations. C'est beaucoup plus complexe, hein, pour le dire les choses clairement. C'est pour ça que je plaide pour une analyse en termes de jeu de traduction de ce point de vue-là, parce que les rapports entre les données de l'anthropologie physique et l'analyse de la génétique sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir quand on voit un système d'opposition. Ces rapports, ils peuvent s'analyser de la manière suivante. Premièrement, les données de l'anthropologie physique, souvent, sont en fait le point de départ, le point de référence de la plupart des études qui sont menées sur les groupes sanguins, etc. Autrement dit, contrairement à une formule qui est sans cesse répétée par exemple par Ruffier, selon laquelle l'hémotypologie constate et l'ethnologie explique, n'est-ce pas ? Elle est belle cette citation. C'est une méthode biologique donc fondamentalement objective. En fait, la réalité est totalement autre. C'est-à-dire que pour définir et pour nommer les populations sur lesquelles ils font leur prélèvement, la plupart des anthropologues, y compris génétiques, se fondent sur les données de l'anthropologie physique. Et il y a un partenariat, y compris sur le terrain, très fort entre les uns et les autres. Et ça, c'est vrai jusqu'à une période très récente, c'est-à-dire qu'on hérite beaucoup des catégories qui ont été forgées à une autre période. Et, j'y insiste, le rapport entre ces catégories de l'anthropologie physique et celles de l'anthropologie génétique, on va dire, sont beaucoup plus complexes qu'une simple entreprise de déconstruction. C'est-à-dire que dans un grand nombre de cas, ce que disent explicitement les auteurs, c'est qu'il y a recouvrement entre les deux. Il n'y a pas déconstruction radicale de l'une par l'autre. Bien, je finirai peut-être là-dessus. Peut-être si juste une remarque, puisqu'il a été évoqué le fait qu'il y avait une certaine forme d'originalité dans l'inscription du social dans le biologique, aujourd'hui, avec les résultats que vous évoquiez. Je pense que là encore, il faut être assez prudent, puisque, en fait, c'est un relatif lieu commun depuis, à minima, les années 50, que le social, les frontières sociales en particulier, les séparations religieuses, culturelles, raciales, au sens, justement, de la discrimination raciale, ont des effets, y compris biologiques. D'ailleurs, je le signale, Ruffier et Bernard, pour prendre le cas français, proposent de développer ce qu'on appelle une hématologie culturelle. L'hématologie culturelle s'intéresserait moins aux barrières biogéographiques, mais aux barrières culturelles et sociales qui ont des effets, y compris dans la constitution ensuite de populations différenciées en termes de marqueurs génétiques. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, c'est encore un peu naïf que de croire, à mon avis, qu'il y avait une sorte de grande rupture globale qui existait à une certaine époque entre le biologique et le social, et qu'aujourd'hui, miraculeusement, on aurait un effacement de cette rupture. Ce qui peut être plus intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que tout un ensemble de personnes, du point de vue des sciences sociales, se sentent aujourd'hui obligé d'intégrer tout un ensemble de ces données issues de la biologie. Dans quel contexte est-ce que ça se fait? À mon avis, il y a plein de variables à prendre en compte, à la fois du côté de l'engagement politique pour un certain nombre de cas, du côté aussi de rapports hiérarchiques entre disciplines. Si vous voulez obtenir des financements, bah, ça vaut le coup peut-être de dire bah, j'intègre une variable biologique dans tout un ensemble de programmes de recherche, etc., etc. Voilà, donc j'en finirai là-dessus. Je vais peut-être conclure par un dernier point, c'est que si j'ai insisté quand même sur le fait qu'il était nécessaire de contester l'idée selon laquelle il y aurait un retour qui supposerait donc une disparition et qu'il faut plutôt analyser de manière assez précise comment la notion de race a été retravaillée du côté de la génétique des populations et des sciences biomédicales sur la période de 1945 jusque dans les années 80-90. Je veux quand même nuancer mon propos avec deux petits points. Hein. D'une part, il n'est pas sûr, par contre, qu'au terme de ce processus complexe qu'il faudrait retracer, et qui est impur, incomplet, qui ne se laisse pas penser en termes de rupture, de coupure, etc., ce processus de déplacement à la marge, de traduction des différentes catégories, la notion de race n'en sort pas effectivement profondément transformée. C'est-à-dire que moi, je pense quand même qu'il y a des vraies ruptures qu'on peut identifier, mais au terme de tout un processus, et c'est jamais, j'insiste, des ruptures pures et globales. C'est toujours sur certains points régionaux. Si bien que le fait qu'à partir des années 1980-90, la notion de race soit souvent abandonnée du côté notamment de la génétique des populations humaines au profit d'autres concepts comme celui de population ancestrale, de DEM, d'ascendance biogéographique, ne reflète pas simplement un simple changement de surface de vocabulaire. Je pense que derrière, il y a effectivement tout un ensemble de points de transformation qui justifient ça. Et d'autre part, si j'ai essayé de nuancer et de contester la pertinence d'une analyse qui insiste sur les ruptures paradigmatiques, ça ne signifie pas non plus que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vraiment tracé une ligne qui est celle qui va de l'anthropologie physique à la séroanthropologie et la génétique des populations. Dans d'autres domaines, il n'y a pas eu des ruptures paradigmatiques importantes, hein, ou en tout cas une marginalisation extrêmement forte de tout un ensemble de questions et de modèles qui étaient importants dans le racialisme de la période antérieure à 1945. Et ça, c'est particulièrement vrai, me semble-t-il, en ce qui concerne le principe d'un déterminisme des capacités intellectuelles, morales et civilisationnelles du fait de caractères raciaux. C'était quand même l'une des bases des discours racialistes pendant une très longue période. Et aujourd'hui, à part un certain nombre de cas marginalisés et qui font immédiatement l'objet de controverses qui les rejettent, c'est quand même quelque chose qui n'est plus présent. Et en particulier dans les études que j'ai décrites, on ne trouvera jamais une idée selon laquelle de ça il faut déduire une forme de déterminisme en termes de capacité morale, intellectuelle et civilisationnelle. Il faut insister sur ce point parce que autant je veux nuancer un certain nombre de points de rupture, autant il ne faut pas non plus sombrer dans une vision caricaturale qui consisterait à dire ben, donc tout est un peu comme avant. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci.